Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Le système de gestion de base de données Postgres, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme en début d'émission, la chronique d'Antanac sur logiciels libres et décroissance, et également la chronique de Vincent Calame en fin d'émission sur le Low-Tech Magazine. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 14 mars 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission du jour, Thierry Holleville. Bonjour Thierry.
Bonjour à tous.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Que libérer d'autre que du logiciel ? C'est la chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Le thème du jour, logiciels libres et décroissance, avec une invitée aujourd'hui, Nathalie. Donc je vous passe la parole.
Oui, merci Fred. Bonjour à tout le monde. Oui, je suis vraiment contente qu'aujourd'hui, une autre personne d'Antanac soit non seulement avec moi, mais plutôt même va prendre toute la place là. Et moi, je vais me taire pour une fois pendant cette chronique. Puisque Nathalie, je ne sais pas quand est-ce que tu es arrivée à Antanac, Nathalie ? 2017 ?
2016.
2016, oui, voilà. Donc, on avait juste un an. Donc, voilà, c'est génial. Bah, écoute, super. Bienvenue à toi. Et je te laisse la parole.
Merci. Et bonjour à tout le monde. Donc je vais vous lire un petit texte. Libriste et décroissante. Le libre est-il décroissant ? C'est grâce à la fin de Windows XP que je me suis lancée à la découverte du monde du libre en 2014. Abandonner la logique des dominations de Microsoft où l'univers fermé d'Apple me convenait politiquement. À ce moment-là, j'étais décroissante, sortie du surconsumérisme et du culte du neuf. Il était donc hors des questions pour moi de devoir changer de PC pour pouvoir répondre aux exigences techniques et commerciales de Microsoft. J'allais désormais utiliser des outils élaborés en toute transparence par des communautés des développeuses-développeurs, des logiciels et systèmes d'exploitation au code source accessible et obligatoirement assorti de la licence GPL ou 4 libertés, de les utiliser, étudier, modifier et redistribuer gratuitement ou non. Tous ces outils mis à disposition des particuliers sans obligation de payer m'ont ouvert des horizons de découverte sans fin. Ceci m'a permis de m'émanciper du modèle rigide, onéreux et verrouillé imposé par Microsoft et Apple. Les ressources logicielles ne sont pas, elles, alourdies par des programmes parasites de surveillance et de restriction d'accès, mais centrées sur l'essentiel, leur fonctionnement. Je pouvais donc faire tourner un système GNU Linux stable, sans bug et sans virus, avec tous ces logiciels légers et efficaces sur mon PC vieillissant, au lieu d'ajouter une machine à la masse déjà considérable de nos déchets informatiques. En 2016, j'ai rejoint Antanac. Mmh. Est-ce que je vous présente encore l'association ? Donc, association libriste qui récupère, revalorise, donne des ordinateurs après y avoir installé un système d'exploitation libre. En participant à toutes ces activités, j'ai pu m'approprier des savoirs sur le libre et l'informatique, puis les transmettre à mon tour. C'est en configurant le navigateur Mozilla Firefox, autre logiciel libre, sur les ordinateurs à l'association Antanac, que j'ai commencé à approfondir mes connaissances sur la surveillance et la collecte de données dont nous faisons l'objet à chaque connexion Internet. La communauté Mozilla fournit des logiciels pour lutter contre ces intrusions, mais aussi une documentation abondante sur Internet et le pistage. J'ai beaucoup appris grâce au partage de ressources et de connaissances et aux dispositifs d'entraide mis en place par les communautés de développeuses, développeurs et d'usagers et d'usagères expérimentés. Combien de fois suis-je allé consulter des forums et autres tutoriels ou articles en ligne ? J'ai pu rencontrer des associations libristes à des install parties ou à des événements variés. J'y ai même participé avec Antanac. Ces valeurs et pratiques essentielles dans le monde du libre me sont familières. Il y a environ 15 ans, j'ai contribué à l'écriture d'un texte en ligne avec des militants écologistes grâce à un wiki, un logiciel libre très simple et pratique à utiliser, permettant le travail collectif à distance. Le partage de la connaissance et les échanges sont centraux dans le monde écolo-libertaire décroissant où des personnes et collectifs soucieux de préserver notre planète échangent savoir et réflexion dans des domaines très variés. Ce sont des pratiques essentielles et précieuses dans le mouvement de la décroissance qui ne se contentent pas de réfléchir à comment décroître, mais placent la coopération, les liens et la convivialité au centre de son projet politique. Parallèlement à mes passionnantes lectures sur le pistage numérique, je consultais régulièrement la presse informatique. C'est un dossier consacré aux dangers des GAFAM qui m'a donné envie de me documenter davantage. Ces entreprises ont la puissance comparable à celle de pays, possèdent la majorité de nos données et de nombreuses infrastructures et services numériques qui les permettent de se rendre incontournables, voire autonomes. Elles se trouvent donc en position de force pour orienter les législations des États. Ces multinationales promeuvent un modèle de société autoritaire où la vie privée est abolie, la surveillance généralisée et les humains exploités. Google Alphabet investit massivement dans les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information, sciences cognitives. Ses dirigeants entendent mener un projet transhumaniste en vue de refaçonner le monde et l'humain. En 2012, ils ont engagé Ray Kurzweil, scientifique et théoricien du mouvement transhumaniste que Google finance. Ce sont ces mêmes multinationales qui ont pillé les logiciels libres pour en tirer de gros bénéfices. Le monde du libre se situe à l'intérieur d'un Internet majoritairement exploité et géré par les entreprises et institutions d'un système capitaliste de plus en plus agressif sous la domination des GAFAM. Ils se trouvent même prisonniers, je dirais. Actuellement, l'arrivée de la 5G dédiée aux objets connectés et aux véhicules autonomes représente un vrai butin de données pour ces multinationales. Cela pourra-t-il durer, sachant que si les consommateurs et consommatrices se soucient peu d'éthique ou de logiciels libres, ils sont tout de même sensibles à la sauvegarde de leur vie privée et aux scandales diminuant la confiance dans les GAFAM. Les entreprises, elles, commencent à s'inquiéter du devenir de leurs données. Tout cela se joue sur fond de crise écologique, dans une dynamique de croissance et d'extractivisme, comme si les ressources planétaires étaient illimitées, et le réchauffement climatique inexistant. Cela ne pourra pas durer. Il faudra décroître. Il y a des solutions pour cela. Les logiciels libres en font partie. Pourtant, le monde n'est pas en soi décroissant car il est associé au numérique et à son développement. Comme la fondation Linux à la 5G, il est aussi majoritairement présent dans la gestion des serveurs. Il contient malgré tout de précieux ingrédients pour faire décroître le numérique. Si on considère que la décroissance est la trajectoire qui va de notre monde en surproduction à une société écologiquement soutenable, le libre peut s'inscrire dans ce processus. Par leur conception, des logiciels libres, légers et efficaces, permettent de réaliser des économies d'énergie conséquentes et de garder un parc informatique durable. L'organisation du monde du libre en collectif, fondée sur la coopération, le partage de ressources et des savoirs associés, répond totalement à celle souhaitée par les militants de la décroissance. Le contrôle des technologies souhaitées par les décroissants passe par l'appropriation individuelle et collective de connaissances techniques, afin de décider ensemble de leur devenir et d'agir. L'association Pharmasoft a montré qu'il était possible de dégoogliser Internet, en mettant des logiciels libres à disposition comme alternative aux services et applications des GAFAM, et de proposer un ensemble de services en ligne décentralisés hébergés par un collectif de petites structures. les chatons. Ces expériences montrent que les outils d'un Internet libre, décentralisé, non surveillé et bien moins énergivore que l'actuel existent déjà. Tout est question du choix politique collectif, de ce dont nous avons réellement besoin. Serons-nous un jour dans les conditions politiques de pouvoir échanger, débattre et décider ensemble sereinement?
Oh, bah super. Merci d'avoir réussi à faire tenir tout ça dans quasi 10 minutes. Hein. On n'est pas trop... Vraiment, c'est pas mal. À la fois une ta propre expérience d'arriver sur le livre, ce que tu fais avec nous en Tanac, plus d'autres perspectives politiques intéressantes à débattre. Tout un programme. Merci Nathalie.
C'était le but de lier le quotidien, l'expérience à des réflexions plus globales.
Super,
globales.
Merci
Nathalie. Merci Isabelle. J'ai juste précisé que le site des chatons avec un S dont tu as parlé, c'est chaton avec un S.org, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, sur lequel vous pouvez trouver plein de structures qui offrent des services type des bloc-notes, gestion de rendez-vous, etc. Et deuxième chose, tu as parlé beaucoup des GAFAM dont au tout début, ça tombe bien, la semaine prochaine, le sujet principal sera concernera un rapport de l'Observatoire des multinationales qui s'appelle GAFAM Nation sur le lobbying des GAFAM en France.
Oui, super.
Donc c'est les GAFAM, ces fameuses entreprises de l'Internet qui se gavent de nos données personnelles en échange de services. Donc c'est le sujet principal de l'émission de la semaine prochaine. Yeah. Donc nous sommes en raccord.
Je vais suivre.
Parfait. Merci. Donc c'était la chronique d'Antanac. Je rappelle que Antanac, c'est antanac.com avec un K, et que vous êtes nos voisines et voisins au 18 rue Bernard Dimet. Nous sommes au 22 rue Bernard Dimet. Donc au mois prochain, Isabelle, pour
au
la
mois
prochaine
prochain.
Chronique.
Merci.
Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de Postgres, le système de gestion de base de données libre. En attendant, nous allons écouter une rappeuse américaine que j'adore, qui s'appelle Killy Mays. Son titre, c'est 2012. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93. December 21st, 2012 means. Do I think humanity will succeed? Do I think we will get swallowed by the sea? Let's trace it to hell in a handbag is what we're facing. Bringing capitalism has us replacing. Want over need products, oversee the poor and the weak lead. The rich and ignorant feed. But there's another message being told. Not one of doom and gloom, but I'll collective power to behold. We must unify, or we might as well die. Stop thinking just about I. Be peaceful on behalf of the tribe. Realize we are divine. We are in a space of no time. The minds who we would align. Be of sound mind, pay attention to the signs. Government and news wants to keep you stuck in food and spending loot. Instead, use your heart. It's a community. You know it's all fake. Babylon don't want unity. Put your mind in earthquake. Don't want us to co-create. I've been gathering the girls and owls. We run deep. White buffalo calf. Women leading love. Armies. Red road. Below feet. We are rainbow warriors. Replacing the warriors. Write a whole new story up. Hold peace in our heart. Be our own particle accelerator and press start. I heard this from a Mohawk. Hopi, Navajo, and Aztec. Indigenous prophecy, many think we're heading for Atlantis. Mayan message of opportunity resonates. This is a sacred time and place. Keep your mind and intentions positive in these final days. You'll find the craze part of the plan. What you dumb, scared, and in a daze. We must unify, or we might as well die. Stop thinking just about I. Be peaceful on behalf of the tribe. Realize we are divine. We are in a space of no time. The minds knew we would align. Be your sound mind, pay attention to the sign. The calendar is ending, but this means a shift in consciousness that is depending on our internal and collective ascending into unity that is unending. We may lose power in the final hour. What message are you sending? If you don't dig transcendence, then try these 10 commandments. One, be grateful and fun. Love all like never before. Two, forgive all in yourself. Forget, set, let's go. Three, let be, let live. Honor, exchange, accept, give. Four, transmute fear. Just feel it, then let go. Five, honor feminine within all and let it flow. Six, like Toltec function. Don't take it personal or make assumptions. Seven, respect Mother Earth and all of nature. Eight, don't hurry your worry. It's using your imagination for what you don't want. Nine, live from your heart and your truth and don't front. Ten, don't let the voices inside stop ya. You are God. Gotcha. We must unify, or we might as well die.
you, we have a tremendous opportunity to shift from the love of power to the power of love. I, for one, will be doing all I can to envision and create the rebirthing of a planet that works for all.
Nous venons d'écouter 2012 par Killimez, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY sur le site libravou.org. Vous retrouverez le lien vers la chanson, le titre, et puis le lien vers l'artiste, vers cet artiste, mais qui fait depuis plusieurs années plus de musique, et c'est un petit peu orienté vers d'autres activités, mais en tout cas voilà, c'est une des premières rappeuses américaines, en tout cas artistes américaines, d'avoir utilisé des licences Creative Commons totalement libres pour ses créations, de l'avoir revendiqué et avoir eu en plus un très gros succès, donc c'est Killimez. Et ben, nous allons passer au sujet suivant.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le système de gestion de bases de données libres Postgres avec Laetitia Avro et Anthony Novossien. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, donc sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, ou directement sur le site libreavoue.org, où vous pouvez même nous appeler. Je sais que Thierry en régie rêve d'avoir un appel téléphonique. Le numéro, c'est le 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Alors bonjour Laetitia.
Bonjour.
Bonjour Anthony.
Bonjour.
Alors avant d'aborder le sujet principal, donc système de gestion de bases de données libres Postgres, alors je précise tout de suite que le sujet ne va pas être ultra technique, parce que je vois que sur le salon web quelqu'un dit c'est technique aujourd'hui, pas que technique, loin de là. Comme vous savez, c'est libre à vous, donc on essaie de contenir les deux publics, le public technique et le grand public qui va découvrir ce que c'est que Postgres. Mais d'abord une première question, vous découvrir vous, donc une petite question de présentation personnelle. On va commencer par Laetitia Avro.
Oui, je suis Field CTO pour une entreprise américaine qui s'appelle EDB. Field CTO, ça veut pas dire je travaille dans les champs, je fais pas d'agriculture. Field, c'est plutôt pour le sens sur le terrain. Donc, je suis bras droit technique des CTO.
Alors, CTO, c'est quoi?
CTO, c'est DSI.
Alors, direction des systèmes d'information.
Direction voilà. Des systèmes d'information. Donc, c'est vraiment m'assurer que mes clients DSI aient compris les implications de leur choix, puisqu'un DSI fait toujours énormément de choix. Et chaque choix, enfin, il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde. Donc, même le choix de ne rien changer a des implications. Donc, je m'assure que ils et elles ont bien compris les implications. Et après, ils font leur choix, on leur a mis conscience.
D'accord. Et tu es également donc trésorière de Postgres Europe, cofondatrice de Postgres Women et contributrice reconnue du projet Postgres.
Oui.
Donc peut-être qu'on reparlera tout à l'heure notamment de Postgres Women que je ne connais pas, et peut-être aussi de Postgres Europe quand on parlera de la communauté. Donc tu es quelqu'un qui est très active en tout cas dans le projet aussi Postgres.
Oui, et une dernière contribution que je fais, c'est que je suis aussi enseignante à l'Université Lyon 1 en Master 2.
D'accord. Alors, il faut préciser, on a le plaisir que tu sois venu spécialement pour l'émission aujourd'hui, donc on a le plaisir de t'avoir en studio. Deuxième invité, alors c'est aussi un grand plaisir parce que ça fait à peu près 2 ans qu'on essaie d'organiser ça, c'est Anthony Novossien. Donc Anthony, une petite présentation.
Oui, bonjour, donc je m'appelle Anthony, je viens d'un peu moins loin que Laetitia puisque je travaille à Paris. Je suis secrétaire de l'association Postgres FR. Je suis depuis septembre dernier membre du Code of Conduct, du comité du Code of Conduct de Postgres.
Donc le code de conduite.
Le code de conduite du projet Postgres. Et je suis également expert Postgres à la Société Générale.
En précisant que tu interviens à titre personnel aujourd'hui, tu n'interviens pas au nom de la Société Générale. Alors, dans l'introduction, j'ai dit système de gestion de bases de données libres Postgres. On va peut-être commencer par la première partie, celle qui est sans doute la moins connue des gens. Système de gestion de bases de données, c'est quoi un système de gestion de bases de données? Qui veut commencer par essayer d'expliquer ça? Bon, Laetitia.
Alors, aujourd'hui, on a énormément de données, mais c'est pas nouveau en fait, ça date des années 70. Et quand on a commencé à avoir beaucoup de données, on s'est rendu compte qu'on aurait aimé pouvoir y accéder en même temps, sans se poser la question de qui écrit, qui lit en même temps, etc. Ça, c'était pas possible de le résoudre avec le stockage, puisque quand on a un fichier, on peut pas avoir 2 personnes qui écrivent en même temps dessus. Donc on a dû créer ce qu'on appelle des moteurs de base de données, qui sont capables de justement servir ce qu'on appelle des accès concurrents aux données. Ce qui permet à des gens de pouvoir... Il y a quelqu'un qui écrit, mais il y a quelqu'un d'autre en même temps qui est en train de lire, et il y a quelqu'un d'autre qui attend sa place pour pouvoir écrire aussi sur cette donnée, etc. Ça, c'est pourquoi on a inventé ça dans les années 70. Ensuite, on est allé plus loin, c'est que du coup, on a mis en place un système qui est optimisé pour gérer toutes ces données. Donc c'est son travail de s'assurer que les données sont bien stockées là où elles sont, qu'elles ne sont pas perdues une fois qu'elles sont stockées, que les transactions accèdent aux données une fois qu'elles sont validées, qu'elles n'accèdent pas aux données non validées, qu'elles accèdent qu'une fois qu'une transaction est passée, donc une fois qu'on a dit qu'on veut changer quelque chose, hein, qu'on a dit « ok, je valide », que cette validation soit sur l'intégralité de la transaction. Par exemple, si on décide de transférer 100 euros d'un compte à un autre, d'un compte bancaire à un autre, si on retire 100 euros d'un compte et qu'on ne les fait pas arriver sur l'autre, ça va poser problème. Donc, on s'assure que la validation est globale sur les deux comptes. On a bien retiré 100 euros d'un compte et ajouté les 100 euros sur l'autre compte.
Donc, si la deuxième opération de la transaction échoue, la première est annulée.
Voilà, exactement.
D'accord. Ok.
Et c'est pour ça qu'on a été obligé de mettre en place ces logiciels qui sont les systèmes de base de données. Alors, celui-ci est relationnel, il y en a d'autres. Mais c'est pour ça qu'on a mis tout ça en place. C'est des très vieux systèmes, ça date des années 80. Enfin bon, oui, dans l'informatique, les années 80, c'est très vieux.
Humainement, c'est très jeune, on va dire. D'accord. Bon, écoute, ça me paraît très très clair. D'ailleurs, je précise d'ailleurs que la même personne, alors je vais dire qui c'est, parce que c'est Bouquinette, c'est en plus la présidente de l'April hein, depuis 3 mois, qui disait donc qui craignait que ça soit trop technique, vient de dire c'est super clair. Donc franchement, par contre effectivement, on va juste demander à Laetitia de parler plus proche du micro tout à l'heure, parce qu'en fait voilà, on nous dit que le volume est un peu bas. Donc en tout cas moi j'ai rarement entendu une explication aussi claire sur ce que c'est qu'un système de gestion de base de données.
Peut-être pour compléter.
Ouais, Anthony, vas-y.
Merci Laetitia pour cette introduction très très claire. Tu as parlé de des familles un petit peu de bases de données. Donc il y a un certain nombre de familles de bases de données qui existent. Postgres fait partie de la grande famille des bases de données relationnelles. On peut dire que c'est la famille qui est arrivée en premier dans les bases de données. Maintenant, il y a plusieurs autres systèmes qui sont présents, par exemple les bases de données graphes, les bases de données clés-valeurs, qui sont les bases de données documents qui sont arrivées un petit peu a posteriori pour gérer de nouveaux cas. L'idée des bases de données relationnelles, c'est de gérer plutôt des données que l'on appelle structurées, qui ont un format à peu près défini, par exemple des numéros de compte, des civilités, des noms, des prénoms, tout ça, c'est des données qui ont une structure. Et Postgres sait très bien gérer ce genre de données.
D'accord. On va expliquer par exemple que souvent des gestions de membres peuvent être stockées dans des bases de données relationnelles. Par exemple, à l'April, on a une base de données relationnelle qui est d'ailleurs basée sur Postgres et au-dessus, il y a un applicatif. Donc tu dis que c'est Laetitia, j'allais te donner un autre prénom. Tu as parlé des années 80, donc c'est assez ancien. Donc effectivement, c'est des choses que les gens ne connaissent pas forcément. Donc il y a plusieurs bases de données qui existent. Il y a des bases de données privatrices dont on va reparler tout à l'heure sans doute avec Oracle ou autre. Mais dans le monde du logiciel libre, si j'ai bien compris, Postgres est l'une des plus anciennes.
Oui, la première note de design, c'est 1984.
Alors, 1984, j'étais assez étonné quand j'ai vu ça, parce que je pensais que c'était beaucoup plus récent, donc ça fait quand même très longtemps. Donc peut-être un petit peu d'historique justement sur comment est né Postgres, pourquoi c'est né en fait, et comment ça s'est développé avant qu'on rentre un peu plus peut-être dans les détails d'aujourd'hui. Alors Laetitia, tu commences.
Oui. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le projet est né à l'université de Berkeley. Et l'université de Berkeley, au lieu d'avoir des laboratoires par matière, par thème, a des laboratoires pluridisciplinaires. Ce qui fait que Postgres a été créé au départ pour de la biologie, pour stocker des données biologiques. Parce qu'ils avaient besoin d'une base de données, tout simplement. Et du coup, ça a été créé avec une application directe au départ. Et c'est pas n'importe qui l'a créé, c'est Michael Stonebraker. Et Michael Stonebraker est l'une des 4 personnes qui a obtenu le prix Turing, qui est l'équivalent du prix Nobel en informatique, pour ses apports aux masses de données.
Ah oui, donc c'est quelqu'un qui rigole pas, quoi.
Oui, voilà. Et il avait créé avant un autre moteur de base de données qui s'appelait Ingress. Et du coup, il a appelé celui-ci Postgres pour Post-Ingress, après Ingress.
D'accord.
Et c'est de là que vient le nom Postgres.
D'accord, donc ça c'est début des années 80. Donc il lance ça, cette personne lance ça tout seul, donc Université de Berkeley aux États-Unis.
Non.
Enfin, pas tout seul, non.
C'est un professeur, donc il s'entoure d'une cohorte d'étudiants très intelligents qui vont coder pour lui.
Très impliqués.
Très impliqués, d'accord, ok. Donc ça c'est tout le démarrage. Donc c'est un projet finalement quelque part universitaire qui démarre comme ça. Ça va être quoi le développement? Parce que aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, Postgres est utilisé dans plein de cas, dans une petite association comme l'April, mais notre base de données n'est pas très très grosse, mais on va en parler tout à l'heure dans des grandes entreprises qui l'utilisent. Alors, toi, tu travailles à la Société Générale, mais on peut parler aussi de la SNCF et autres. Comment s'est développé ce projet à partir de ce effectivement de Berkeley? Comment c'est sorti de Berkeley, en fait, quelque part?
Alors, tu parlais du tout début de Postgres, donc il y avait un grain. Au début, en 84, en 86, il y a un papier qui sort, le design de Postgres, donc en 86, qui liste un certain nombre des griefs que les étudiants et l'équipe faisaient à Ingres, pardon, et donc on décidait d'une certaine manière de forquer, donc de prendre un nouveau développement se basant sur Ingres. Donc il y a des développements qui restent dans le giron universitaire pendant un certain nombre d'années. Et en 95, en fait, c'est là où le projet devient libre, véritablement. Il est ouvert à contribution, il est ouvert et disponible, le code source devient libre et disponible sur Internet. Et il choisit un nom un petit peu curieux, Postgres 95 d'ailleurs.
Et aussi l'autre chose intéressante, c'est qu'à l'époque, il y avait très peu de licences libres. Et du coup, le projet Postgres a déployé sa propre licence.
Alors c'est une licence Postgres SQL qui ressemble un peu aux licences d'université américaine.
Oui.
Donc il y a une licence qu'on dit, en fait, on peut en faire un peu ce qu'on veut, à partir du moment où simplement on conserve l'attribution des contributions de chacune et chacun, c'est ça?
En fait, c'est encore plus libre que ça.
Ah, c'est
on peut faire tout ce qu'on veut du moment qu'on ne fait pas de procès à PostgreSQL.
D'accord, ok.
La licence tient en moins de 140 caractères.
D'accord, ok. Oui, parce que tout à l'heure, dans la chronique d'avant, on a parlé d'une des autres licences libres qui existe, qui est très connue, qui est la GNU General Public License, qui, elle, fait plusieurs pages, mais dans le contexte, dont l'objectif est un petit peu différent.
Il y a très peu d'obligations, en fait, avec cette licence-là. C'est effectivement, faites ce que vous en voulez. On dit qu'elle est assez proche de la licence MIT.
Oui, c'est ça. C'est à ça que je pensais. La licence MIT, donc Massachusetts Institute of Technology, qui est une licence qu'on dit permissive, c'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses. Sauf que, voilà, il faut effectivement ne pas remettre en cause ce qui a été fait par les personnes, voilà. Donc c'est à partir du moment où ça devient libre, que ça commence à sortir, et est-ce que il y a des réflexions sur la formalisation ou la structuration du projet, c'est-à-dire est-ce que, alors excusez-moi, j'ai pas retenu le nom de la personne qui a lancé ça, mais vous
Michael
vous
dire. Stonebraker.
Alors Stonebraker, est-ce que il décide de conserver, je dirais, le leadership sur ce projet, est-ce qu'il décide de créer une fondation, comment ça se passe, quelles sont les discussions et aujourd'hui où ça en est, en fait?
Alors il est resté un certain temps pour moi dans le projet, mais c'est une personne qui a eu énormément d'idées sur les bases de données. Donc ça a donné naissance à Postgres, mais ça a donné naissance aussi à d'autres projets avec d'autres systèmes de gestion qu'il a mis en place. Donc il a lancé énormément de start-up, ce monsieur-là, à un moment donné.
D'accord.
Et je ne sais pas à quel moment il s'est retiré du projet.
Moi, je dirais qu'à partir du moment où il y a eu la formation du PGDG, donc le Postgres Development Group, et j'aurais bien daté ça en 1995, le code est devenu la propriété de tout le monde, en fait.
D'accord. Donc lui, il a pas lancé, parce que Anthony, tu venais de dire qu'il avait lancé des start-up dans d'autres domaines, donc il a pas choisi de lancer une start-up avec un système privateur basé sur Postgres, il a plutôt dit je le libère et les gens en font ce qu'ils veulent, c'est ça? Personne en France qui
veut. Moi, au début, en fait, il y avait il a monté une société qui a fait du support sur Postgres.
D'accord.
J'ai oublié le nom.
Ok.
Voilà, qui a eu sa petite vie.
D'accord.
Et voilà.
Okay. D'accord.
Et aujourd'hui,
ça fonctionne comment, en fait?
Je vais juste rajouter qu'aujourd'hui, Michael Stonebraker est membre de la direction de EDB, de la société dans laquelle je travaille.
Ah, d'accord. Ok. Donc tu as déjà eu le plaisir de le rencontrer?
Ben non, parce qu'il y a eu Covid.
Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Bon, j'espère que tu auras ce plaisir-là après. Donc, avant qu'on parle un peu technique sur les forces et peut-être les faiblesses de Postgres, on va finir sur cet aspect libre. Aujourd'hui, en fait, comment est géré le projet? Enfin, même si on va en parler un petit peu. Non, on en parlera un petit peu peut-être après le projet dans la deuxième partie. Je regarde mon séquencier, je me dis que je suis un peu en avance. Alors, on va parler du projet un petit peu après. Là, on va parler un peu, pas trop forcément technique, parce que c'est pas le but. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question, Pour quel type de projet on peut utiliser ce type de base de données relationnelles Postgres? Est-ce que c'est des petits projets, des gros projets? Quel type de compétences il faut? Quel est le coût entre guillemets humain? Et après on parlera. Là je parle d'un projet qui part de zéro. Je parle pas d'un projet de migration. Après je poserai la question sur un projet de migration parce que c'est très très différent. Mais voilà, quelqu'un qui se dit, que ce soit une grande entreprise, une petite ou autre, se dit tiens, j'ai un projet qui va nécessiter une base de données. Pourquoi choisir PostgreSQL? Postgres, excusez-moi.
Alors, la première raison pour laquelle il faut choisir Postgres, c'est que c'est le moteur de base de données plébiscité par les développeurs. Dans le sondage annuel de Stack Overflow, donc plus de 100 000...
Alors Stack Overflow, c'est un site web...
Un forum. D'informaticiens. Ouais. Et ils font un sondage annuel, plus de 100 000 personnes répondent. Et ça fait plusieurs années que Postgres était le préféré. Et cette année encore, c'est le système préféré des développeurs. Je sais pas vous, mais moi, quand quelqu'un veut travailler avec un outil, je lui dis bah oui.
Oui. Alors pourquoi justement c'est le système préféré alors ?
J'ai un copain qui dit on peut être sûr de quasiment rien sauf du fisc et de Postgres.
D'accord. Ok. Donc c'est quoi ? C'est la fiabilité et la capacité oui. peut-être à gérer tous les types de projets ?
Alors, moi, j'aurais tendance à dire qu'il Postgres peut tout faire.
Oui.
À partir du moment où on a intégré les fonctionnements de Postgres et que le code est développé pour fonctionner avec Postgres.
D'accord, donc c'est une écriture spécifique de code pour que ça soit optimisé, c'est ça ?
Optimisé pour les systèmes relationnels.
D'accord.
Déjà.
D'accord.
Parce que si on fait quelque chose en n'imaginant pas qu'on va avoir un système relationnel, ça va pas bien marcher.
Donc, autant utiliser une base de données d'un autre type à ce moment-là.
Oui, voilà. Et après, souvent, quand j'interviens, moi, j'interviens toujours quand ça marche pas, parce que quand ça marche, les gens m'appellent pas. Souvent, quand ça marche pas, c'est le code. C'est pas Postgres, c'est pas la base. C'est très souvent un problème de code. La vision des requêtes n'est pas ensembliste, c'est-à-dire
mais,
que...
Mais pas quoi ?
Ensembliste, c'est-à-dire que donc Postgres utilise le SQL, qui est un langage normalisé de requêtage de base de données, il y en a d'autres, mais il a une vision ensembliste des choses, il est basé sur la théorie des groupes de Galois, etc. Et c'est basé aussi, même si ça s'en est un peu éloigné ces derniers temps, de l'algèbre relationnelle. Donc il y a des grosses bases mathématiques derrière. Et si on n'a pas acquis ces fondamentaux, par exemple, si on décide de mettre à jour 1000 lignes et qu'au lieu de mettre à jour 1000 lignes, on met à jour une ligne par une ligne, ça va être beaucoup plus lent que si on met à jour 1000 lignes.
Ouais, donc il y a des compétences à avoir pour l'utiliser pleinement et pas faire d'erreurs.
Voilà.
Et je vois une question sur le salon web, donc je vais la relayer parce que tu as parlé de requêtage, donc quelqu'un demande ce que c'est le requêtage. En fait, c'est de requêtage. Donc, est-ce que tu peux préciser ce que c'est que le requêtage ?
Alors, le requêtage, c'est demander au moteur de rapporter une donnée. Donc, le SQL, c'est un langage qui a été créé pour les non-informaticiens. Il a été fait pour qu'il soit nativement lisible en anglais. Donc, on va lui dire, s'il te plaît, enfin non, on dit pas s'il te plaît à une machine, rapporte-moi toutes les personnes dans la base de données qui sont nées en 1986.
Voilà, on demande à un système de faire une sélection par rapport à un certain nombre de critères. Si je reprends l'exemple de base de données de gestion d'adhérents, on peut demander quels sont les membres qui sont à jour de cotisation aujourd'hui, quels sont les membres qui habitent par exemple la région parisienne, etc. Quoi. Et donc on fait une requête, d'où le terme requêtage. Voilà.
Et le gros avantage, c'est que au lieu de dire à l'ordinateur comment faire les choses, on lui dit ce qu'on veut.
Voilà. Et lui, on ne sait pas comment la base va gérer ça, mais elle va donner la réponse. Et ce que tu dis, c'est que quand il y a des erreurs, c'est plutôt du côté développement que plutôt du côté Postgres.
Voilà.
Donc la difficulté, c'est que c'est un langage de beaucoup plus haut niveau que ce à quoi on est généralement habitué. Alors, habituellement, quand on communique avec une machine, on lui dit, tu fais telle chose, ensuite tu passes à la chose numéro 2, à la chose numéro 3, à la chose numéro 4. Là, on lui pose simplement la question. Donne-moi les habitants de Paris qui sont membres de l'association.
Voilà.
Et c'est charge à Postgres de trouver la réponse donc par ses algorithmes, par son intelligence, pour répondre le plus rapidement possible à cette question.
D'accord. Alors là, moi, j'ai pris l'exemple d'une association qui a une petite base de données. Hein. 3000 membres, c'est bien pour une association, mais ça reste relativement petit. Là, tout à l'heure, tu disais en introduction, tu travaillais pour la Société Générale, j'ai cité la SNCF. Aujourd'hui, les bases de données sont sont plutôt de genre de teraoctets, voire plus, c'est-à-dire des grosses, grosses bases de données. Est-ce que PostgreSQL est capable de gérer ce genre de cas? Et voire même, est-ce que PostgreSQL serait spécialisé dans ce genre de ce qu'on appelle les grosses bases de données?
Alors,
c'est une question où j'ai pas la réponse. Hein.
On est d'accord que quelqu'un qui a une petite base de données, elle marchera partout sur n'importe quel système, ouais, même si c'est pas fait pour. Parce qu'il y aura jamais de problème avec peu de volume. Les problèmes peuvent arriver si on a un gros volume, sachant que c'est très difficile de définir ce qu'est un gros volume, en ayant en même temps une charge de travail importante. Parce que si on a beaucoup de données mais qu'on ne va jamais les chercher, ça tournera, hein. Il n'y aura pas de problème. Le problème, c'est quand on va demander d'aller chercher les données, on veut que la réponse soit en un certain laps de temps.
Ah oui, la rapidité de la réponse,
oui,
d'accord.
On ne veut pas une latence trop importante, oui, parce que sinon, aujourd'hui, on sait qu'on est dans un monde où si on attend plus de 250 millisecondes sur une page Internet, on va fermer la page.
D'accord.
Donc, et 250 millisecondes, ça veut dire aller chercher...
Il y a de nombreux GAFAM qui ont calculé le...
reprendre le plus que...
Oui, pardon. Il y a de nombreux GAFAM qui ont calculé le coût que... Comment dire
De la latence.
De la latence, effectivement, en millions d'euros pour le chargement d'une page.
D'accord, ok.
Donc c'est pareil pour la base de données. Ouais.
Oui, donc du coup le problème arrive quand on demande beaucoup de choses à la base de données et qu'en même temps elle a beaucoup de choses à trier. Forcément, récupérer un item parmi 20, c'est plus facile qu'un item parmi 20 millions. Donc c'est là qu'il commence à y avoir des soucis. Ça ne veut pas dire que c'est impossible à faire. Ça ne veut pas dire que Postgres est moins bon que les autres pour le faire. À mon avis, même, il est particulièrement bon pour le faire. C'est juste que là, il va falloir faire attention à comment on le demande. Parce que suivant la manière dont on le demande, il prendra peut-être pas le même chemin pour y arriver. Il va falloir faire attention à comment on l'a paramétré pour qu'il puisse utiliser toutes les ressources de la machine. Il va falloir voir aussi comment on a structuré les données, puisqu'on a dit au départ que c'était des données structurées. Si elles ne sont pas structurées correctement, ça peut avoir un impact assez important sur la performance.
Oui, donc si je comprends bien, de la façon dont on va faire le travail initial va dépendre profondément le résultat de la requête finale qu'on va faire, qui va peut-être passer en moins de 250 millisecondes, qui va peut-être passer en 10 secondes, voire même en plusieurs heures. Anthony, vas-y.
Tu posais la question si Postgres était spécialisé dans les gros volumes.
Oui, parce que j'ai lu sur l'environnement spatial, par exemple.
Oui.
Je pense que c'est effectivement un point intéressant qu'on pourra aborder tout à l'heure. Je pense pas que Postgres est spécialisé dans les gros volumes, mais c'est une base de données très versatile, qui va savoir gérer les petits comme les gros volumes. Laetitia l'a très bien expliqué.
Et qui n'a pas une très grande variance de temps de latence qui est peu d'éléments ou beaucoup d'éléments.
Ah, ça c'est important. C'est-à-dire qu'en fonction, effectivement, il n'y a pas une explosion du temps de latence dont tu parlais si le nombre d'éléments augmente, contrairement peut-être à d'autres bases de données. D'accord.
Ça c'est le pouvoir de ce qu'on appelle l'indexation, oui, qui va permettre d'offrir des temps logarithmiques.
Et pas exponentiels.
Voilà, pas exponentiels ou pas linéaires. D'accord. Si ma base de données est 10 fois plus grosse, je ne vais pas avoir des temps qui vont être 10 fois plus longs.
D'accord.
Si j'ai bien organisé ma base.
Alors je précise aux gens qui sont sur le salon web, si c'est trop technique, n'hésitez pas à le dire, parce qu'effectivement, il y a quand même tout à l'heure, on a eu la théorie des groupes de Galois, donc effectivement. Alors, ça semble... Postgres semble avoir beaucoup de points forts, notamment versatilité, etc. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des points faibles techniques, je parle. Après, je posais une question sur la partie humaine. Mais est-ce qu'il y a des points faibles techniques ou des choses que, par exemple, Postgres ne saurait pas faire par rapport à d'autres bases de données, qu'elles soient libres ou privatrices?
Alors, je dirais que... Il n'y a pas de choses qu'il ne sait pas faire, il y a des choses qu'il ne sait pas encore faire.
D'accord.
Parce que Postgres évolue, même très rapidement, puisqu'il y a une version majeure tous les ans. Mais il y a notamment, j'ai dit que SQL était un langage normé, standardisé. La norme évolue aussi. Et donc, il y a encore beaucoup de manquements à la norme, parce qu'elle évolue plus vite qu'on a du temps pour implémenter, parce qu'il faut arriver à déjà comprendre la norme.
Et aujourd'hui, ça implémente... Est-ce que tu sais, c'est à peu près, ça implémente combien de pourcents de la norme?
Je ouais, n'en sais rien.
Mais est-ce qu'il y a des bases de données qui implémentent 100% de la norme?
Non.
Okay, d'accord, donc voilà.
Et Postgres, c'est à mon avis le plus proche du standard.
D'accord.
C'est réputé pour être le plus proche du standard. Et c'est un modèle, même dans les universités, à bonne raison, justement.
Ok. D'accord.
Mais bon, ça reste des choses qui a amélioré, notamment les tables temporelles, qui sont des tables qui permettent de stocker les différentes versions, les différentes anciennes versions des valeurs, pour stocker un historique.
D'accord.
Automatique, ça c'est quelque chose qui existe sur MariaDB par exemple, mais qui n'existe
pas. Base de données libre,
oui. Voilà. Mais qui n'existe pas dans Postgres.
D'accord. Alors maintenant j'ai posé la question sur l'aspect non technique mais plutôt humaine, qui est peut-être la complexité potentielle d'utiliser Postgres SQL, parce que comme tu l'as expliqué tout à l'heure, Laetitia, il faut avoir une certaine maîtrise des concepts et d'un certain nombre de choses pour faire quelque chose bien. Et j'ai poursuivi ma question directement aussi. Est-ce que dans les formations actuelles des jeunes ingés, est-ce qu'il y a des formations à Postgres SQL, à Postgres plutôt. Alors je dis Postgres SQL parce que ça s'écrit SQL à la fin. Postgres.
On peut dire les deux.
Voilà, on peut dire les deux. Est-ce qu'il y a de la formation sur les jeunes ingés? Donc est-ce que les jeunes ingés qui arrivent sur le marché du travail, ou en tout cas les personnes qui ont été formées, est-ce qu'elles ont reçu de formation sur ces, à la fois sur les concepts de la base de données et puis sur la base de données elle-même. Anthony.
Alors, je peux dire que quand moi j'étais en école d'ingénieur, j'ai plutôt appris à utiliser en tant que développeur la base de données, donc à faire des requêtes pour poser les questions à la base de données. Ça, j'en ai fait sur plusieurs systèmes de gestion de base de données. J'ai par contre pas du tout appris à comment marcher ces bases de données, disons, sous le capot. En tout cas, à l'époque où je l'ai fait, voilà, c'était pas vraiment le cas pour moi. C'est quelque chose que j'ai appris sur le fait.
Bah excuse-moi, alors je précise que comme j'ai oublié mes papiers, je fais un signe à la régie qu'on va bientôt faire une pause musicale, donc voilà, mais je l'ai écrit. Vas-y, continue, excuse-moi, Anthony.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a des parcours qui mettent l'accent sur comment sont organisées les choses à l'intérieur d'une base de données, et pas seulement l'approche des développeurs requêtage.
Alors, je vais nuancer un peu ce propos. Justement, j'enseigne à l'Université Lyon 1 pour faire ma part, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de formations en informatique où il y avait zéro connaissance en base de données, ou près de zéro. C'est-à-dire, c'était des gens qui apprenaient encore le langage SQL d'avant 1992. Donc, pour avoir une vision, pour les informaticiens qui veulent avoir quelque chose de très visuel sur ce qu'est 1992 en informatique, c'est Windows 3.1. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement ancien. Le langage a énormément évolué depuis. Pareil, moi, ce que j'ai appris en école d'ingénieur, alors j'ai eu la chance d'être à Lyon où il y a plusieurs laboratoires de bases de données, donc j'avais des enseignants-chercheurs en bases de données. Donc j'ai fait pas mal de modélisation. J'ai eu des cours sur le langage, des cours aussi d'algèbre relationnelle, donc toute la théorie mathématiques qui est sous le SQL, mais je n'ai pas eu la partie compréhension du fonctionnement interne d'un moteur de base de données.
D'accord. Alors, on va faire une pause musicale. Je vous avais prévenu, ça passe vite le temps. Hein. C'est... excuse-moi Thierry, j'ai oublié mes papiers, donc on est obligé de... Oh bah en plus, ça démarre tout seul, super. Nous allons écouter Woman's Thoughts par CyberSDF. On se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous sommes en train d'écouter la fin de Woman's Thoughts par CyberSDF, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. L'occasion de rendre une nouvelle fois hommage à Laurent Séguin, décédé en novembre 2020. Laurent était une figure incontournable du logiciel libre et également un artiste sous le pseudo de CyberSDF.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre notre discussion sur le sujet principal qui parle toujours du système de gestion de bases de données libres Postgres avec Laetitia Avreau et Anthony Novossien. Juste avant la pause, on parlait un petit peu technique au niveau de Postgres. Et là, on va finir cette partie-là avec alors une première question sur la qualité de code, parce que tu me disais, Laetitia, en aparté pendant la pause musicale, que tu n'avais jamais vu un code aussi propre. Alors qu'est-ce que ça implique ? Enfin, quelle est la conséquence ?
La conséquence, c'est que il y a peu de bugs. Quand même, c'est pas un logiciel qui est extrêmement buggé, Postgres. Ça veut dire aussi que quand on rajoute un patch, c'est assez rapidement stable. Et ça veut dire aussi que oui, le moteur est stable en lui-même.
D'accord.
Et puis, c'est aussi, en tant que développeuse, super agréable de travailler avec, de pouvoir rajouter du code dessus, parce que c'est magnifique.
D'accord.
Peut-être une petite contrepartie à ça, c'est que comme le standard est vraiment très haut, ça peut donner l'impression que la marche est assez haute pour le contributeur effectivement, qui souhaiterait rajouter un patch sur le projet.
D'accord. Bon, on parlera tout à l'heure de la partie contribution, parce que Laetitia voulait en parler un petit peu. On va juste finir sur la partie Postgres en tant que telle, pour revenir sur une de mes questions initiales, sur le type d'entreprise qui utilise aujourd'hui Postgres, et notamment des grandes entreprises. Donc, tu me disais en aparté, Laetitia, aussi que à peu près toutes les grandes entreprises utilisent du Postgres, et vous citiez des noms. Donc, est-ce qu'on pourrait faire un peu de citation de noms de grandes entreprises qui utilisent, ou de grandes structures publiques, hein, bien sûr. Anthony ?
Oui, donc pour information, je fais partie d'un groupe de travail à l'intérieur de l'association Postgres FR, qui s'appelle le groupe de travail inter-entreprise, qui regroupe un certain nombre d'entreprises de plus ou moins grande taille qui sont toutes utilisatrices de Postgres. On trouve des banques, Société Générale, BNP, on trouve l'IGN, on trouve l'Agirc-Arrco, EDF, il y a beaucoup de grands noms. Et globalement, la question à se poser maintenant, c'est qui n'utilise pas Postgres plutôt d'une autre
manière. Et il faut voir aussi qu'en France, depuis 2005, Postgres, dans tout ce qui est public, est la base de données par défaut. C'est-à-dire que dans tous les ministères, il y a du Postgres.
Alors c'est parce qu'elle est référencée dans le SOC interministériel du logiciel libre ?
Oui, aussi.
D'accord. Ok.
Je peux en parler justement puisque j'ai fait partie de. J'ai été contributeur au SOC interministériel du logiciel libre à l'époque où je travaillais pour le ministère des Affaires étrangères.
D'accord.
Donc avec un groupe de travail interministériel qui s'appelle MINPROD, qui pousse en avant certaines souches logicielles pour la production. Donc Postgres est le référent depuis de très nombreuses années dans le CIN.
D'accord. Alors pour finir sur cette partie de Postgres, une question un peu classique, je dirais, dans les bases de données, parce que quand on parle de système de gestion de bases de données, il y a un nom qui arrive assez rapidement, hein, c'est Oracle. Tout à l'heure, donc, on a parlé de projets qui démarrent à partir de zéro, mais projet qui démarre à partir de zéro, c'est qu'une seule partie des projets informatiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui utilisent déjà Oracle, donc qui est un système privateur qui existe depuis très très longtemps, je suppose, et qui rapporte beaucoup d'argent à la société du même nom. Alors, quid du projet de migration à la fois technique, d'un point de vue technique, et aussi d'un point de vue humain, parce que j'imagine bien que les responsables les personnes qui administrent des bases de données Oracle, est-ce qu'elles ont forcément envie de réapprendre autre chose, de migrer ça à autre chose? Donc voilà, quels sont les enjeux techniques et humains d'une migration d'une base de données Oracle vers une base de données Postgres? Anthony, pour commencer?
Oui, c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé de mon côté ces migrations. Quand on entend migration de la base de données, on entend effectivement migration de la base de données et également la partie applicative, le code de l'application qui lui aussi doit être transformé pour être adapté au nouveau système de gestion. Globalement, les données, on sait les rendre compatibles, les extraire et les rendre compatibles à Postgres, depuis de très nombreuses sources, Oracle, SQL Server, pardon.
C'est la base de Microsoft.
La base de Microsoft ou d'autres bases propriétaires. La difficulté est plus dans l'intelligence qui a été mise dans le code SQL, où là, c'est en général un travail bien plus compliqué qui va demander des réécritures humaines très souvent. Il y a des automates qui existent, mais ils seront toujours imparfaits, et donc il y a besoin de l'intelligence humaine pour, et de la compréhension des besoins du métier pour adapter au nouveau système.
D'accord. Donc, mais c'est faisable quand même.
C'est faisable.
D'accord. Laetitia.
Alors, un des produits de mon entreprise, c'est un fork de Postgres avec une couche de compatibilité Oracle, ce qui permet de réduire la réécriture du code, parce que dans les bases Oracle, pour des raisons de performance, on a fait énormément de procédures stockées, c'est-à-dire des bouts de code qui tournent côté base de données, parce que c'était plus performant que de le faire tourner sur le serveur applicatif. Tous ces bouts de code, en fait, ne sont pas compatibles Postgres, parce que c'est dans un langage que Postgres ne comprend pas. Donc, il faut réécrire tout ça. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette couche de compatibilité. Ça facilite la migration, ça fait pas le café non plus. Il faut quand même travailler. Et puis, la compatibilité ne sera jamais 100%. Par contre, on a un moteur qui permet de déterminer un pourcentage de compatibilité de l'application existante avec notre version. Ensuite, pour ce qui est de la formation des humains, généralement, ça se passe très très bien. D'accord. Parce que à part deux, trois différences qui sont un peu structurelles, Postgres fonctionne d'une manière assez comparable à Oracle. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes problèmes. Ils ont parfois été résolus de manière différente, mais globalement, ça fonctionne. Enfin, c'est les mêmes problèmes, c'est la même manière de stocker les choses, etc. Donc, normalement, pour quelqu'un qui était DB à Oracle, passer DB à Postgres, c'est assez facile.
Et qui est motivé, quelqu'un de motivé.
Bien sûr. On ne peut pas apprendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie d'apprendre.
Tout à fait. Alors, DBA, c'est Database Administrator, donc c'est une personne qui administre une base de données.
Je peux rajouter quelque chose?
Bien sûr.
DBA, c'est un travail de l'ombre. Souvent, on est oublié, alors que c'est un travail qui est assez ingrat, puisque si on fait bien son travail, personne n'a besoin de nous. Enfin, personne ne sait qu'ils ont besoin de nous.
Voilà.
Donc, du coup, le premier vendredi de juillet, c'est le DBA Day, où on encourage les gens à aller dire merci au DBA pour qu'au moins une fois dans l'année, ils le fassent.
D'accord. Il y a le même jour pour les admin 6 aussi, les gens qui administrent les serveurs, parce qu'effectivement, quand ça fonctionne, on ne sait pas qu'ils sont là, mais en fait, voilà. Alors, on va passer au point suivant. Alors, on va le raccourcir, parce que je ne veux pas qu'on oublie les points d'après. Là, on a parlé, ce qu'est Postgres. On va revenir donc un peu rapidement sur le fonctionnement peut-être de la fondation et de la contribution. Donc, déjà, première question, on va rappeler comment aujourd'hui est gérée l'évolution du code de Postgres. Est-ce que c'est une entreprise, une fondation ou autre? Donc,
alors,
Laetitia.
Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de fondation. Il n'y a rien.
Ça fonctionne comment alors?
C'est-à-dire que n'importe qui peut envoyer un mail en disant « voilà, j'ai écrit un patch ». Et n'importe qui peut dire « non, je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison ». Ou « ok, mais je trouve qu'il faudrait l'améliorer sur ce point-là ou ce point-là ». Ou « ok, mais je trouvais que c'était imparfait, donc je l'ai réécrit et rajouté telle chose, etc. »
Alors d'accord, mais tout à l'heure, tu parlais de version stable de Postgres. Comment se définit, qui définit, décide, entre guillemets, de la version stable?
Tant que personne, alors il faut qu'il y ait des gens qui disent qu'ils sont d'accord, et tant qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, de toute façon, ça ne passera pas. Il faut un consensus.
D'accord.
Mais le plus gros problème quand on écrit un patch, c'est d'avoir des gens qui réagissent sur ce patch, en fait.
Qui relisent le patch pour voir s'il est cohérent, quoi.
Et pour ça, on a 5 fois par an une période d'un mois qui s'appelle Commit Fest. Donc on peut y accéder sur commitfest.postgresql.org.
On a mis la référence aussi sur bravo.org. Ouais.
Et en fait, là, n'importe qui peut dire ok, ce patch, je le relis. Et à la fin, dire son avis sur le patch. Une fois que ça c'est fait, un committeur officiel de Postgres va regarder le code et va donner son avis.
Alors, précise ce que c'est qu'un committeur, déjà.
Alors, un committeur, c'est quelqu'un qui a les droits de commit sur le Git de PostgreSQL. Donc, sur la gestion de version, c'est quelqu'un qui a le droit de valider un patch.
D'accord.
C'est un peu le gardien du code source de Postgres.
Alors, et ils sont pas nombreux.
Non, ils sont très peu nombreux. Non.
Alors, je fais juste une aparté. On a consacré il n'y a pas très longtemps une émission justement sur les systèmes de gestion de versions décentralisées, dont Git et Mercurial. Donc, vous cherchez sur libravou.org, comme ça, vous aurez une émission qui vous expliquera un petit peu ça. Question, comment ces committeurs sont choisis?
En fonction de leur contribution.
D'accord. C'est la communauté qui choisit, quoi, c'est ça?
C'est la communauté qui choisit. Après, il y a aussi il y a plusieurs associations, mais il y en a une qui est plus importante, c'est l'association de PostgreSQL Canada, qui gère une réunion de développeurs tous les ans à Ottawa.
D'accord.
Et c'est lors de ces réunions qu'ils décident s'il y a des nouveaux committeurs, s'il y en a besoin, etc.
Ça fonctionne un petit peu comme une méritocratie où les contributeurs qui ont montré leur valeur au bout d'un certain nombre de patchs et régulièrement d'années peuvent être promus, s'ils en ont le souhait, bien sûr, committeurs sur le projet.
D'accord. Et les contributions sont uniquement du code ou est-ce qu'il y a d'autres contributions? Quelle est la forme de contribution?
Déjà, le code ne sera pas accepté s'il n'y a pas la documentation qui va avec. Et la documentation fait partie du même directory Git. Donc, c'est au même endroit.
Donc, soit tout est acheté, soit tout est accepté.
Voilà, c'est atomique.
D'accord.
Donc, déjà, ça. Ensuite, on a énormément besoin de personnes qui parlent anglais, dont l'anglais est la langue maternelle, pour relire la documentation, parce qu'on est à l'international et on écrit la documentation en anglais, mais peu d'entre nous ont l'anglais comme langue maternelle. Ensuite, on peut très bien organiser des événements. Il va y avoir PG Day Paris la semaine prochaine, mais il y a des meet-ups.
Précise exactement le jour.
C'est les 22 et 23.
22 et 23 mars.
À l'espace 2023. Saint-Martin, okay. À Paris.
On mettra la référence sur le site. Okay.
Il y a aussi, on peut faire des meet-up Postgres. On peut simplement parler de Postgres autour de soi. Des amis qui sont, des collègues qui sont commerciaux, qui sont contributeurs, puisqu'ils parlent de Postgres autour d'eux, tout simplement. Même la communauté considère même qu'on est contributeur à partir du moment où on s'intéresse à Postgres, tout simplement.
Mais nous, quelque part, dans utilisateur. L'émission, on
voilà, est voilà. Bienvenue bon. Parmi les contributeurs.
Ah ben, c'est un grand plaisir, d'accord. L'émission en général, il n'y a pas que moi. D'accord, donc c'est OK. Est-ce que tu dirais, ça me fait penser à récemment, on a parlé de Drupal, donc un outil pour créer des sites web, où en conclusion, l'une des personnes disait que finalement, si je me souviens bien, on vient pour le code, on reste pour la communauté. Est-ce que vous diriez un petit peu la même chose? Que j'ai l'impression qu'il y a ce sentiment-là. Alors, donc, peut-être que je me trompe, je ne sais pas.
Peut-être donner mon.
Vas-y, Anthony.
Mon avis. Avant de travailler sur Postgres, je travaillais sur d'autres systèmes de gestion de base de données, notamment propriétaires. Personne n'est parfait.
Tout le monde a une vie avant.
Voilà. Et il y a eu un certain nombre de rencontres qui ont été organisées par la communauté Postgres sur Paris, des meet-ups organisés par des membres influents à l'époque. C'est vraiment ce qui m'a donné envie d'en faire partie. S'il n'y avait pas eu ces rencontres, globalement, je ne ferais pas partie de la communauté à ce jour. Et ça a été un élément déclencheur pour moi, et je continue à y participer, à contribuer à mon niveau à cette communauté.
Mais alors, finalement, ça me vient de penser, dans la préparation de l'émission, Laetitia, il y avait un sujet que tu voulais aborder, c'était les différents types d'open source ou de logiciels libres. Moi, j'ai tendance à penser, mais peut-être un côté bisounours, que c'est un peu l'une des forces du logiciel libre. Est-ce que c'est pas tout le temps la même chose dans toutes les communautés?
Non.
Ah, vas-y alors.
Déjà, il y a certaines communautés qui sont réputées toxiques, surtout pour les femmes, dans laquelle on n'a pas envie d'aller, et même quand on est un homme, je pense qu'on n'a pas envie d'être associé à ces communautés. Donc ça, c'est une première chose. Et il y a une deuxième chose, c'est que ces dernières années, s'est développé ce que j'appelle de l'open source captif. C'est-à-dire, c'est de l'open source pour lesquels une seule société fait du support. Ah, et une seule société maîtrise qui contribue.
Et une société qui met pas forcément tout le code à disposition et encore moins la documentation. Et
surtout une société qui retire tous les commentaires du code quand il est ouvert.
Ah, à ce point-là?
Oui.
Ah oui, d'accord, ok.
Donc c'est quand même alors c'est open source dans le sens où on peut lire le code, mais il n'y a pas de commentaires et on ne peut pas contribuer.
D'accord, c'est dans ce sens-là que tu entendais.
Avec des différences très importantes entre les deux versions, la version communautaire, open source, et la version entreprise, facturée à prix d'or, de nombreuses fonctionnalités.
Alors, pour être plus clair, dans ce modèle que tu décris, dans la version communautaire, il y a plein de choses, mais en fait, si on veut vraiment l'utiliser, il faut forcément passer à la version entreprise, parce que les trucs intéressants sont dans la version entreprise.
Et puis, de toute façon, si on veut du support, on est obligé de passer par cette entreprise, et une fois que les commerciaux ont mis le pied dans la porte, ils vont réussir à vendre la version...
Très intéressante avec Postgres, c'est que, à ma connaissance, il n'y a quasiment pas de système de gestion de base de données qui n'est pas contrôlé par une entreprise. Oui, je pense que Postgres, c'est le seul.
Mais c'est pour ça que moi, je posais la question tout à l'heure initialement sur une fondation, parce que je pensais initialement qu'il y avait vraiment une fondation. Parce qu'en général, c'est vrai, quand il n'y a pas une entreprise, c'est souvent une fondation qui est créée. Voilà.
Il n'y a pas de structure et le but, c'est de continuer comme ça. Pour rester libre.
En tout cas, c'est assez impressionnant de se dire qu'un projet avec autant de personnes arrive à rester comme ça. Parce que quand il y a peu de personnes, on peut se dire, bon, c'est faisable, mais avec autant de personnes, ok. Alors, comme tu m'as fait un peu une transition sur le dernier sujet qu'on souhaitait aborder, mais avant ça, le dernier sujet, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur la partie fonctionnement du projet Postgres? Non? Bon. Ceci, vous après la phrase de conclusion, si vous voulez. Tu as parlé donc de projets qui sont toxiques.
Oui.
Et donc l'un des sujets que tu souhaitais aborder qui est important, donc c'est la place des femmes dans le logiciel libre et plus largement la question de la diversité, de l'inclusivité ou même au-delà de la question du genre. Donc comme tu voulais aborder ce sujet, je te laisse déjà commencer.
Oui, alors déjà la place de la femme dans le monde de l'informatique est pas énorme. Il est aujourd'hui estimé à 25% en comptant
les non-techniques.
Les non-techniques, ouais, c'est-à-dire les commerciaux. Les... Si on regarde la partie développeurs-développeuses, on est de l'ordre de 15%. Si on retire le développement front, qui est la partie visible, et qu'on passe sur le back, on est plus dans les 10%. Dans les bases de données, on est moins de 5%. Je suis contributrice reconnue du projet PostgreSQL. Nous sommes 3 femmes sur 127.
D'accord.
Dans le monde.
Donc même pas 3%, quoi.
Ouais. et je constate, même si ça a progressé, mais dans les événements, les entreprises n'envoient pas les femmes.
Alors même quand elles ont des expertes Postgres, elles les envoient pas.
Voilà.
Et pour quelle raison ?
Il y a peut-être plusieurs raisons. Il y a peut-être simplement que j'avais une copine qui était technique, elle pouvait pas se déplacer parce qu'elle a des chevaux et que les chevaux ça mange, donc il faut leur amener à manger tous les jours. C'est une raison parfaitement valable. Mais après, les statistiques sont très claires. Les managers proposent moins souvent aux femmes des déplacements qu'aux hommes. Après, moi, j'adore les déplacements, donc...
heureusement, parce que sinon, on aurait eu mal avec... Enfin, t'aurais pu intervenir à distance,
mais... Oui, moi, j'adore me déplacer, déjà, parce que ça me fait des vacances de la maison. Je n'ai pas à m'occuper des enfants, donc c'est bien. Enfin, je suis désolée, mon chéri. C'est aussi que... aller à des conférences, c'est entretenir son réseau professionnel.
Ah, clairement, oui.
Et c'est permettre une progression professionnelle. Donc, si on n'a pas ça, ça fait une sorte de cercle vicieux. Après, il y avait autre chose qu'on essaye de changer, c'est dans les événements communautaires, souvent, les événements sociaux se font dans des bars avec beaucoup d'alcool.
Ah, c'est ce que je veux dire, avec beaucoup d'alcool, voilà, oui.
Bon, surtout de la bière, mais de l'alcool quand même. Et c'est pas un événement, c'est pas un environnement super friendly pour les femmes. Déjà, on essaye de créer des groupes en disant... Là, vous êtes safe, vous pouvez venir avec nous, il n'y a pas de problème, etc. Mais il faut qu'on arrive à changer ça aussi. Parce que là encore, si elles apprennent pas à connaître, si elles vont pas aux événements sociaux, elles vont pas connaître la communauté. Si elles connaissent pas la communauté, elles vont pas contribuer et ça, on retourne sur un cercle vicieux.
Alors justement, de ce point de vue-là, comment se comporte la communauté Postgres? Tout à l'heure, Anthony, je pense que tu réagiras là-dessus, tu as parlé que tu as rejoint le comité du code de conduite. Peut-être que tu peux en parler aussi, d'ailleurs.
Oui. Donc, le code de conduite a été mis en place il y a quelques années. Alors, il y a 5 ans.
C'était en 2017. C'était pour Lisbonne.
D'accord. Donc, OK. Je pense que c'est une très bonne avancée qui était attendue depuis assez longtemps, notamment par les femmes. Les événements communautaires regroupant des centaines de personnes peuvent donner assez régulièrement lieu à des comportements inappropriés.
C'est un petit pourcentage de personnes, mais sur 700 personnes, il y en a forcément quelques-uns.
Il y en aura.
Oui, puis surtout, et je m'a pas juste cet insiste, mais surtout, vous le vivez tous les jours, en fait.
Oui.
C'est pas juste une personne une fois de temps en temps, c'est une personne tous les jours, voilà. Vas-y, Anthony.
Donc, qu'il a été mis en place, c'est une très bonne chose, et les conférences qui se réclament être des conférences communautaires de la communauté Postgres s'engagent à respecter un code de conduite, celui qui a été proposé.
Alors, c'est quoi le principe d'un code de conduite ?
C'est régir les interactions entre les individus et s'assurer qu'on a un milieu inclusif dans lequel tout le monde se sent en sécurité. Je sais que Laetitia fait partie de ce comité.
Du premier comité.
Moi, je fais partie depuis septembre dernier de ce comité et je pense que c'est un engagement important envers les communautés.
C'est un engagement qui retire beaucoup de naïveté aussi. Ça m'a pas mal rongé parce que sur la première semaine...
Dans quel sens ?
La première semaine de création du comité du groupe de conduite, on a eu menace de mort, harcèlement sexuel, et puis il y avait un troisième problème qui a été signalé. Donc on a eu trois trucs majeurs sur la première semaine de création du comité du code de conduite.
Mais qui venaient de gens du comité ou des gens extérieurs ?
Non, gens extérieurs.
Ah oui, ok.
Mais c'était quand même, c'était lourd.
Enfin, des gens, on peut dire des hommes.
Oui, c'était que des hommes.
Il y avait une question. Enfin, je surveille l'heure parce qu'il faut pas qu'on sur le code de conduite. Juste c'est en deux parties. Il y a ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable surtout. Et puis il y a le traitement des si quelque chose se passe mal, comment on peut agir, comment la personne peut agir avec peut-être des gens qui sont référents, etc. C'est ça un code de conduite.
Voilà. Donc il y a un signalement est fait aux personnes qui font partie de ce comité. Le comité se réunit pour discuter de la situation. Est-ce que c'est est-ce qu'il est responsable, est-ce qu'il est habilité à traiter cet incident. Il y a des incidents qui peut-être ne relèvent pas de ses priorités. Ensuite, une décision est apportée, un règlement, enfin.
Et puis il y a témoignage des deux parties, ensuite le comité de code de conduite propose une action à la core team du projet PostgreSQL. Et la core team prend la décision d'appliquer ou non la décision.
Et précisons donc que le code de conduite, là on a parlé des questions de harcèlement sexuel ou autre, de questions de genre, ça concerne d'autres choses.
Mais bien sûr, les menaces de mort c'était sur un homme.
Hein. Oui, un homme.
C'est vraiment tout comportement inadmissible. Et le comité de code de conduite de Postgres s'applique à toute interaction entre deux personnes de la communauté. Que ce soit
sur les réseaux sociaux, dans les conférences,
dans un meet-up, partout.
D'accord. Donc ça, c'est récent, si j'ai bien compris, la mise en place de...
2017.
Donc il y a quand même un certain recul. Avec ce recul-là, est-ce que finalement il y a eu des incidents qui ont été, enfin des incidents, des signalements qui ont été traités? Est-ce que des choses?
Oui, chaque année en fait. Ouais. Donc le comité publie un rapport, anonymisé et puis synthétisé, des incidents qui ont été rencontrés au sein de la communauté.
D'accord.
Donc qui est disponible sur le site postgresql.org une fois par an.
Ok. Bon, ben ça, ok. Alors, je surveille l'heure, vu que notre intervenant suivant est déjà arrivé. Donc, avant la question, à moins que vous vouliez rajouter un point sur cet aspect-là, non ? Ok. Donc, juste avant la question finale, est-ce que vous avez des annonces d'événements ou autres à faire ? Donc, j'ai noté Postgres Day à Paris, donc les 22 et 23 mars, c'est ça. Donc on mettra les références sur le site de l'émission, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ou d'autres...
Juste en lien avec cette annonce, on parlait de la place des femmes. Cette rencontre-là, le PGD Paris, est organisée entièrement par des femmes. Et le comité de sélection est également entièrement féminin. C'est une première dans une...
C'est la première fois que j'entends parler d'une conférence tech organisé uniquement par des femmes sans que ce soit le sujet.
Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et je précise que tu fais aussi partie de groupes, de structures qui regroupent des développeuses et autres, comme par exemple, Duchesse France.
Oui, je fais partie de Duchesse France.
Voilà, c'est aussi comme ça qu'on est rentré en contact. Tu es la troisième ou quatrième personne qui intervient ici, qui vient des Duchesse. On mettra aussi les références, évidemment. La question finale traditionnelle, en deux minutes chacune et chacun, on va commencer par Anthony. Quels sont les éléments clairs à retenir de cette émission ?
Je dirais qu'en introduction à Postgres, vous pouvez en retenir que c'est un projet mature qui est là depuis très longtemps, qui répond aux besoins à tous vos besoins de base de données. Ne vous inventez pas des problèmes de scalabilité que vous n'avez pas.
De mise à l'échelle.
De mise à l'échelle. Merci Frédéric. Que vous n'avez pas encore et que vous ne rencontrez certainement jamais, il est beaucoup plus efficace de partir sur cette solution-là. Vous allez pouvoir être accompagné par une communauté enthousiaste, que ce soit à titre personnel, individuel ou également en entreprise.
Très bien. Bah, Laetitia Avro.
Alors moi, j'ai un message pour les débutants en Postgres et même les non-techniques. Si vous voulez en savoir plus, il y a un magnifique roman qui a été écrit. Malheureusement, il n'a pas été traduit en français, donc il faudra le lire en anglais. Ça s'appelle A Curious Moon de Rob Conry. Donc c'est un roman sur donc l'histoire, c'est un stagiaire en informatique qui arrive dans sa boîte dans la Silicon Valley à San Francisco et il voit le DBA partir avec un carton et puis il est appelé chez le chef, on lui dit t'as écrit Postgres sur ton CV, tu passes DBA Postgres, alors qu'il n'y connaît rien. Et c'est son cheminement, comment il apprend tout en travaillant sur des données qui sont publiques, c'est des données de la NASA qui existent réellement sur les résultats d'exploitation de la sonde Cassini sur une lune de Jupiter. C'est extrêmement intéressant de le voir progresser dans son métier de DBA, de mieux comprendre ce qu'est le métier de DBA. Et si on est technique, on peut aussi jouer les requêtes qui sont données. On peut aussi écrire des requêtes. Si on lit pas la page d'après, ben on peut écrire nous-mêmes les requêtes parce que c'est sur un vrai jeu de données. Et je trouve que c'est super.
Bon, c'est cool. On mettra la référence. On renverra le nom précis. Écoutez, c'était un grand plaisir de discuter de Postgres et d'autres choses. Et je vais juste en profiter pour les personnes qui nous écoutent et qui se diraient qu'elles aimeraient bien intervenir aussi dans l'émission, qu'elles ont des idées de sujet. N'hésitez pas à nous contacter parce qu'en fait, l'idée de ce sujet sur Postgres, je le disais il y a 2 ans, j'avais contacté Anthony pour intervenir. Et plus récemment, en fait, c'est Laetitia qui s'est proposée d'intervenir, en fait, suite à un échange avec la Duchesse. Justement, je disais, on cherche des intervenantes et Laetitia s'est proposée. Donc c'est un grand plaisir de vous avoir tous les deux. Et en fait, si vous avez des sujets, si vous nous écoutez, envoyez-nous un courriel, un message, et si ça nous intéresse, effectivement, on vous fera intervenir. Voire même, vous pourrez peut-être préparer un sujet principal si ça vous dit. C'est l'étape d'après, mais en tout cas, nous sommes largement preneurs. Donc je vous remercie. Donc c'était Anthony Novossien qui intervenait, et puis Laetitia Avro. Donc peut-être à bientôt pour une autre émission où on rentrera sur d'autres sujets autour de Postgres. Je vous souhaite une belle fin de journée. On va passer au... Oh non, on va faire une pause musicale. En fait, je crois qu'aujourd'hui, j'ai envie de titiller Thierry parce que je fais n'importe quoi sur les transitions. On va faire une pause musicale. Alors, après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Vincent Calame sur le Low-Tech Magazine. En attendant, nous allons vous faire danser avec un de mes groupes préférés, c'est le Freak Fandango Orchestra. Leur titre s'appelle Late As Usual. On se retrouve dans environ 3 minutes 30. Belle journée, écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
She's coming, late as usual, girl, she's running out of
venons d'écouter Let As Usual par The Freak Fandango Orchestra, disponible sous licence libre Creative Commons, se partage dans les mêmes conditions CC by SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par la chronique de Vincent Calame, informaticien libriste bénévole à l'April. Cette saison, Vincent propose des chroniques sur le thème du libre et de la sobriété énergétique. Tout à l'heure, on parlait de sobriété, pas vraiment sobriété, justement, précédemment dans les soirées libristes. Le chapitre aujourd'hui porte sur le site web Low-Tech Magazine. Vincent, c'est
oui.
Quoi ce site web ?
Alors oui, aujourd'hui je vais revenir à la question du low-tech, mais dans le concret cette fois, puisque je vous présentais ce site web. Alors je remercie au passage Laurent Costi, qui est chroniqueur et animateur sur cette antenne, qui m'a transmis le lien et partagé son enthousiasme pour ce site. Donc il s'appelle Low-Tech Magazine et se trouve à l'adresse solar.lowtechmagazine, tout attaché, .com. Donc, vous trouverez évidemment la référence exacte sur le site de l'émission. Alors, je précise tout de suite que si la page d'accueil est en anglais, sa version française est complète dans une traduction de très bonne qualité. Alors, ce site est principalement l'œuvre d'une personne, Chris de Decker, journaliste scientifique et technique indépendant qui est installé à Barcelone. Alors, ce détail a son importance, nous allons le voir par la suite.
Alors, que trouve-t-on sur ce site ?
Alors, tout d'abord, je vous signale que je vous ai donné l'adresse de la version du site qui commence par Solar. Il existe une version commençant par les 3 W classiques, et qui est lui-même tout à fait classique, le site. La version Solar est beaucoup plus intéressante car il s'agit d'un serveur alimenté de manière autonome par des panneaux solaires. Comme l'indique le sous-titre de cette version, ce site fonctionne à l'énergie solaire se retrouve parfois en ligne. Vous avez d'ailleurs tout en haut à droite des pages un petit pictogramme qui indique l'état de la batterie en fonction de l'ensoleillement. Bon, évidemment, hein, du coup, comme être à Barcelone pour l'ensoleillement, ça aide. Pour avoir une consommation minimale, le contenu doit être minimal, c'est en particulier les cas des images. Le site ne les bannit pas, mais en propose une version en basse définition. Bon, on va pas se cacher, hein, c'est moins lisible qu'une photo habituelle, mais c'est très intéressant d'un point de vue pédagogique. Je propose aux amateurs, hein, je précise que tout le système mis en place est bien sûr décrit dans le détail dans un des articles. Alors le site propose 3 grandes rubriques. Solutions low-tech, problèmes high-tech et technologies anciennes. Alors la distinction entre solutions low-tech et technologies anciennes est instructive car elle montre que le low-tech n'est pas un retour au passé, mais surtout une réinterrogation des savoirs et de technologies empiriques à la lumière de nos connaissances scientifiques actuelles. À titre d'exemple, l'article « Comment concevoir un voilier au XXIe siècle » est très éclairant. Comme indique son chapeau, je cite « Il est étonnamment difficile de construire un voilier à impact carbone neutre. C'est d'autant plus le cas aujourd'hui que nos normes de sécurité, de santé, d'hygiène, de confort et de commodité ont profondément changé depuis l'âge de la voile. » Alors cette illustration illustre bien le ton du site. Il n'est pas catastrophique, il étudie les questions posément et de manière approfondie sans éluser les sujets qui fâchent ou les pleins points bloquants, en particulier nos standards de confort modernes. Bon, je vous laisse le plaisir de découvrir le contenu du site qui existe par ailleurs en version papier. Alors le sujet des voiliers est un peu particulier, plus proche de notre vie quotidienne. Je vous recommande plus particulièrement l'article sur comment sortir son appartement du réseau électrique. J'ai notamment découvert ce paradoxe. Nos outils informatiques fonctionnent avec du courant continu basse tension. Les panneaux solaires produisent du courant continu basse tension. Mais entre les deux, si on fait le passer par le réseau électrique classique, il faut transformer ça en courant alternatif à haute tension à l'aide d'un onduleur pour ensuite l'adaptateur de votre appareil le transforme en courant continu. Alors, par exemple, d'après l'article, cette simple double conversion ferait perdre jusqu'à 30% d'énergie produite. Ce n'est pas rien.
Alors, est-ce que ce site parle de logiciels libres ?
Oui, alors j'aurais envie de répondre, évidemment. Vous trouverez dans la rubrique « Problèmes high-tech » un article intitulé « Comment et pourquoi j'ai arrêté d'acheter de nouveaux ordinateurs portables ?» où l'auteur décrit de différents ordinateurs qui ont jalonisé sa vie professionnelle et comment il est revenu à un IBM Sixpad de 2006. Comme il l'indique, l'utilisation de vieux portables n'est possible que grâce aux logiciels libres, et en particulier des distributions GNU Linux spécialement conçues pour des vieux matériels. Alors je vais pas m'étendre là-dessus car j'ai déjà abordé le sujet dans une chronique précédente, mais le Chris de Decker le fait de manière beaucoup plus détaillée et pédagogique que moi, je ne peux que vous conseiller de le lire.
Bah écoute, merci Vincent pour cette découverte. Donc on va rappeler le site web, donc c'est solar.lowtechmagazine.com. Évidemment, les références sont sur le site libreavoue.org. Et comme c'est une émission qui est très cohérente aujourd'hui, en première partie d'émission, nous avions qui donc Antanac, qui est donc évidemment l'association spécialisée dans le matériel reconditionné. Hein, donc on voit le lien avec cette chronique. Et nous avons parlé notamment du réemploi informatique, donc notamment de vieux ordinateurs portables reconditionnés dans l'émission 70. Donc justement avec Isabelle Carrère d'Antanac et Joyce Marcol de l'atelier Orditux Informatique. Donc on peut retrouver la référence, enfin le site, l'émission sur libreavoue.org/70. Et je rappelle qu'Antanac était à peu près 10 mètres du studio de la radio. Donc voilà, c'était alors dommage qu'elle soit pas restée parce que je pense que ça leur aurait fait plaisir. Et juste pour finir, il y a pas mal de sites aujourd'hui qui fournissent des ordinateurs, enfin beaucoup, quelques sites qui fournissent des ordinateurs reconditionnés avec des systèmes libres. C'est pas la grande majorité, mais ça existe. On peut en acheter ou on peut acheter des ordinateurs qui sont reconditionnés et installer un système libre, comme par exemple dans le 18e il y a Ecoder. Je sais pas si tu connais.
Non, effectivement, non. Moi j'ai pour l'instant je maintiens au maximum mes ordinateurs vivants et puis le jour j'aurai reconditionnement quand ils lâcheront vraiment.
Exactement. Enfin en tout cas nous effectivement c'est les pratiques qu'on a notamment à l'April d'acheter des matériels reconditionnés. Bon en tout cas merci Vincent pour cette chronique. On se retrouve le mois prochain.
Oui.
Belle journée à toi et puis on va passer aux annonces de fin. Alors, dans les annonces de fin, alors, il y en a un paquet, je vous encourage à aller sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org pour trouver toutes les références que je vais citer et les détails pratiques. Donc, en mars et avril 2023 auront lieu les journées des libertés numériques, un événement pour comprendre les enjeux des technologies et cultures numériques avec les bibliothèques universitaires de Nantes. Notre expo libre, c'est-à-dire les 8 panneaux qui présentent un petit peu le logiciel libre, y sera exposé du 1er au 31 mars. Semaine de découverte de GNU Linux du lundi 20 mars au vendredi 24 mars 2023 à Gourdon en Occitanie. Du côté de Paris, il y a une formation protéger ses pratiques numériques les 21 et 22 mars 2023. Du côté de Limoges, les rencontres de la médiation numérique du numérique en Haute-Vienne, logiciel libre et services numériques éthiques, les jeudis 23 et vendredi 24 mars à la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges. Limoges, cette Bibliothèque francophone multimédia organise chaque année des événements autour du logiciel libre depuis de nombreuses années. Plus proche de nous, entre guillemets, c'est l'apéro April. Et oui, on parlait tout à l'heure de sobriété. Apéro April à Montpellier le 16 mars. Apéro April à Paris le 24 mars. Et attendez, c'est pas fini. Assemblée générale de l'April, samedi 25 mars 2023 à Saint-Denis. Bon, là, il faut être membre de l'April pour assister, mais vous avez encore le temps de devenir membre. Et sinon, April Camp le dimanche 26 mars à Paris à la FPH, là où en fait, tu nous accueilles à la FPH, Vincent, quelque part, vu que tes bureaux sont à la FPH, donc dans le 11e arrondissement de Paris. Donc l'April Camp, c'est vraiment ouvert à toute personne. On travaille sur les sujets autour du logiciel libre qui concernent l'April. Et c'est pas encore fini. Donc les 1er et 2 avril auront lieu pas loin de où réside, si j'ai bien compris, Laetitia. Donc les journées du logiciel libre à Lyon, donc sur le thème des cultures en partage. Donc il y aura un stand April, donc n'hésitez pas à passer. Et mes collègues Isabella Vanni et Étienne Gonu font des présentations également, donc à Lyon les 1er et 2 avril. Pour tous les autres événements, vous allez sur le site de l'agendadulibre.org. Vous retrouverez dernier truc que j'oublie, le Libre en Fête se poursuit. Libre en Fête, c'est 70 événements de sensibilisation autour du logiciel libre pour le grand public. Donc vous allez sur libre-en-fête.net et vous retrouverez ces 70 événements. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Isabelle Carrère, Nathalie Ovion, Laetitia Avrou, Anthony Novossien, Vincent Calame. Cette 110e émission a été mise en ronde, réalisée par Thierry Holville. Je te remercie Thierry parce que j'étais un peu taquin et pas forcément au top aujourd'hui sur les enchaînements. Merci également à Elodie Daniel Girondon, bénévole, qui va traiter le podcast. Merci à Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio, qui va finaliser la mise en ligne sur le site de la radio. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles ainsi que sur le site web de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous contacter pour toute question et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Et vous pouvez aussi nous contacter pour nous proposer des sujets. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou nous poser une question. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites connaître également la radio associative Cause Commune, la voix des possible. Et en cette veille d'une nouvelle journée de mobilisation, je précise de mercredi 15 mars, je précise pour les personnes qui écoutent en différé, je remercie très chaleureusement l'équipe bénévole de la radio et notamment Olivier, Karim, Patrick et William qui couvrent régulièrement les manifestations parisiennes qui visent à défendre nos conquis sociaux. Donc merci. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 21 mars 2023 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le récent rapport GAFAM Nation sur les pratiques de lobbying des GAFAM en France. Les GAFAM, ce sont les grandes entreprises du secteur informatique qui font payer leurs services avec nos libertés. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 21 mars. Et d'ici là, portez-vous bien.